premier rang.
Thank you.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin, dans ce lieu. Bienvenue pour ce temps de pause, ce temps de halte dans vos vies, dans nos vies. Nous allons vivre ensemble un temps d'écoute, un temps de méditation, un temps de réflexion et aussi un temps d'amitié. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce culte, même si vous êtes au loin et que vous nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes ensemble ce matin, malgré l'éloignement, malgré peut-être ce qui vous empêche de venir physiquement dans ce lieu. Vous êtes avec nous par l'Esprit qui nous rassemble tous. Je vous invite à entrer dans ce moment de culte avec le premier répond qui se trouve au début des psautiers français que vous avez donc normalement toutes et tous en main. Nous louons Dieu. De David, psaume, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, je serai rassasié comme de la graisse et de la moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi, car tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes, je suis attaché à toi, ta main me soutient. Je vous invite à chanter le psaume 84, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier. Et c'est Aurélien Peter ce matin qui est avec nous à l'orgue. Et nous le saluons et nous le remercions. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, à travers toutes les pages de la Bible, nous le lisons, c'est que nous vivions. Alors, à chacun de vous, cette parole est adressée. Choisis la vie afin que tu vives. Nous nous présentons devant Dieu. Je vous propose de le faire avec cette prière anonyme. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse et j'appris à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes. Je reçus l'infirmité et je fis des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté et j'appris à être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance et je sentis le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie et je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les autres hommes. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce. Dans le prophète Ésaïe, on peut lire « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. » Confessons ensemble notre foi avec ces mots ce matin. Ô Éternel, nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles, pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'humain relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur. Nous croyons, grâce à Jésus, que l'être humain est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as pour nous. Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour que tu as et à l'amour du prochain, et qu'ainsi le règne divin peut advenir chaque jour par nos actes et nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec toutes celles et ceux qui peuplent ce monde et se soucient de lui. Nous croyons qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous ce moment particulier du livre de sagesse qu'est l'Ecclésiaste. Dans le chapitre 11, les versets 1 à 6. Jette ton pain sur l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont remplis de pluie, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est au lieu où l'arbre est tombé qu'il restera. Qui observe le vent ne sème pas. Qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors dès le matin, sème ta semence, le soir ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un comme l'autre sont également bons. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 179, les strophes 1 et 2 dans le Louange et prière.
Thank you.
prions ensemble. Pardon, j'ai fait un geste qui... c'est tragique parce que ça va très vite, vous voyez. Il suffit de lever un petit doigt et hop, tout le monde s'assied. Alors, on va rester debout encore un petit moment, mais pour prier ensemble avant le moment où Aurélien va nous inviter à la méditation musicale. Nous prions ensemble. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole. Qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions des bonnes nouvelles pour ce monde. Amen. C'est le temps de la rentrée. Et pour beaucoup, c'est le temps de recommencer leurs activités dans un contexte connu, habituel. Retrouver les collègues, les lieux connus et les choses que l'on sait faire. Mais pour beaucoup aussi, c'est le commencement d'une nouvelle étape. Un nouvel emploi, une nouvelle classe pour les enfants. Et puis beaucoup d'autres choses inconnues. Pour nous toutes et tous, ce mois de septembre est, par bien des côtés, aussi le temps d'un paradoxe. Notre pays vit depuis déjà un mois et demi dans une liesse générale, grâce aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, et depuis un mois et demi, notre vie politique, parallèlement à cela, est restée dans l'expectative. Et une tension digne d'une quadrature du cercle est maintenant difficile à appréhender. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Se mêlent dans cette période une joie et un désir d'être ensemble extraordinaire, et pourtant des clivages politiques qui paralysent et empêchent de pouvoir penser à un avenir et une action commune. Le livre de l'Ecclésiaste aborde cette condition paradoxale de l'être humain qui ne sait pas de quoi demain sera fait et qui doit pourtant continuer à avancer, à vivre, à se projeter vers l'avenir, sans savoir ce qui réussira ou non. La vie même nous oblige à agir. Le livre de l'Ecclésiaste, dans son invitation à faire sans cesse son œuvre, est-il un livre enthousiaste qui invite à l'insouciance ? Est-ce que la prudence et l'anticipation seraient devenues deux défauts sous la plume du Qohélète qui a l'air de dire que, de toute façon, il faut faire ? Dans ce livre de sagesse, appelé Qohélète en hébreu, c'est-à-dire celui qui rassemble les maximes de sagesse, le paradoxe d'une vie humaine entre impuissance et désir de maîtrise est remis sans cesse en question. Tout ce qui concerne la vie humaine n'est que vanité, dit le sage, ce qui en hébreu veut dire « tout n'est que buée, vapeur », autrement dit « éphémère, passager ». L'homme mortel, destiné à la même fin que tous les vivants, travaille sans cesse pour réaliser des projets qu'il ne verra peut-être pas aboutir. Qohélète semble dire à chaque étape que ce désir n'est que poursuite de vent, que buée, que vanité ou futilité, comme les traducteurs français l'ont traduit. Et pourtant, de la même façon qu'il pointe avec lucidité cette situation de l'homme, il n'est pas question de penser à quoi bon. Cette sagesse n'est pas un fatalisme, mais un appel au contraire à vivre et même à réaliser avec audace ce qu'il nous est possible de faire durant notre vie, même si elle n'est que passagère. Cet appel à l'existence résonne avec le mot qui signifie buée, futilité, vanité et qui en hébreu n'est autre que celui que nous connaissons bien et qui a donné un prénom, Abel. Eh oui, Abel, le frère éphémère qui n'a pas eu le temps de déployer son existence, celui qui avait le même horizon devant lui que son frère, mais qui n'a rien pu réaliser à cause de la jalousie de Caïn. Abel, qui porte ce nom que Qohélète emploie pour parler de notre vie mortelle. Buée, vapeur. À regarder du côté du destin tragique de ce frère, sans doute aussi capable que Caïn, ayant sans doute autant de possibles devant lui que lui, on peut décrypter par contraste la sagesse que veut nous transmettre Qohélète. Car devant la vie arrêtée en plein épanouissement du jeune homme, un choix s'impose et même un commandement que l'on retrouve dans le livre de la réécriture de la loi, le Deutéronome, au chapitre 30, « Choisis la vie afin que tu vives ». Étrange paradoxe là aussi, de devoir choisir la vie qui pourtant nous est donnée sans que nous y soyons pour rien. C'est que la vie biologique en elle-même n'est pas le tout de la vie. Sans projet de vie, la vie s'étiole et ne remplit pas sa vocation divine. Je dis divine parce que c'est l'appel que le Dieu auquel croyait Jésus de Nazareth adresse à tous les humains au fil des pages de la grande bibliothèque qu'est la Bible. Faire exister la vie qui est donnée par grâce. Donner forme à ce qui sans cesse appelle par une vocation et ce qui, sans cette vocation, serait menacé de retomber dans le chaos. Ainsi, Caïn lui-même, malgré sa faute, devra continuer à vivre. Et Dieu mettra sur lui un signe pour qu'on n'attende pas à sa vie, afin qu'il continue à vivre. Cet appel à vivre ne pose aucun problème tant que le désir est là, bien sûr. Mais cette vie donnée par grâce c'est-à-dire sans que Dieu exige rien d'autre en retour que de la vivre, tourne parfois au calvaire, et la question se pose alors de savoir à quoi servent tous les efforts déployés pour exister quand la vie n'a plus aucun sens, quand la maladie ou le handicap vient frapper la maison, quand le deuil vient vous ôter la motivation de tous vos efforts, de toutes vos attentions, quand le rapport entre bonheur et peine penche uniquement du côté des peines, quand tous les efforts fournis dans son travail ne semblent porter aucun fruit, quand ce qu'on désirait le plus s'éloigne inexorablement des possibles, quand les obstacles sont plus nombreux que les solutions pour avancer, alors la tentation est grande de se laisser glisser vers Abel, vers cette futilité, cette vapeur, cette buée qui nous chuchote à l'oreille « À quoi bon ?» Alors que dit Coëlette dans le passage de ce matin ? D'abord, il y a cette image du pain jeté. L'hébreu dit « lancé » et même « envoyé » à la surface de l'eau. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce morceau de pain, avec le temps, sera retrouvé, dit notre texte. Mais l'hébreu dit « Dans l'abondance des jours, tu le trouveras. » Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas ici d'un retour sur investissement, mais que véritablement ce pain, symbole de nourriture vitale, est à trouver dans le risque même de le perdre. Il faut l'envoyer sur le flux de l'eau pour le trouver et peut-être en connaître sa véritable saveur. C'est en jetant ce pain dans le flux du temps et de notre vie qu'on finit par s'en nourrir à condition d'avoir osé le partager. Donne à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut survenir sur la terre. Il s'agit donc de s'engager pleinement dans cette abondance de jours et de partager ce que l'on reçoit pour trouver ce qui fait vraiment vivre, ce qui donne véritablement la valeur de cette vie donnée par grâce, par un Dieu qui veille et nous laisse à la manœuvre pour former, modeler notre propre existence. Le pingre, dans ce projet, n'a aucune chance, car il n'a pas compris qu'en retenant sa générosité par prudence, il se prive de sa propre vie. Envoyer le pain qui fait vivre sur le flot du temps, c'est parier sur l'avenir, celui de ceux qui s'en nourriront, mais aussi le sien, celui qui me nourrira et qui, partagé, n'aura plus la même valeur. Ce pain-là aurait été porteur de vie pour d'autres et ainsi aura relié des vies entre elles. Notre texte dit aussi « Qui observe le vent ne sème pas » du verbe « semer ».« Qui regarde les nuages ne moissonne pas ». Bref, si vous attendez les conditions optimales pour entreprendre, vous ne ferez jamais rien. La période des Jeux paralympiques nous donne à penser cette maxime. Nous avons pu voir ces derniers jours des vies extraordinaires, les vies que leurs protagonistes ne veulent pas qu'on héroïse, parce qu'ils ne voient rien d'héroïque à se retrouver un jour amputé des deux jambes, parce qu'ils ne seraient sans doute parce qu'il se serait sans doute bien passé d'être né avec un corps atrophié, parce qu'ils auraient aimé ne pas avoir à apprendre à se déplacer sans voir. Bref, l'adversité contre laquelle ces hommes et ces femmes inventent chaque jour leur vie ne fait pas d'eux des héros. En revanche, il y a dans leur façon de surmonter le handicap pour réaliser des choses extraordinaires une sagesse étonnante, loin des sagesses de la mesure et de la prudence qui visent à n'en pas vouloir trop, loin des renoncements sages, qui propose de ne pas être trop gourmand avec le pain de la vie. Cette sagesse, c'est une audace de vivre. Vivre malgré l'adversité et aussi avec l'adversité transformée en force, en passant par des chemins encore inexplorés, en cultivant des désirs encore inassouvis, en visant des sommets encore inaccessibles dans de telles conditions, en inventant des corps nouveaux là où les corps ont été abîmés. Parabole de résurrection, leçon de résilience, exemple de courage. Si les Paralympiques ont pour valeur principale la détermination, l'égalité, l'inspiration et le courage, ce ne sont pas que des mots. Et les petits agitos, ces espèces de petits signes qui remplacent les anneaux olympiques sur le drapeau des Paralympiques, signifient quelque chose qui devrait nous inspirer. Agito, je bouge, voilà le sens de ces signes. Si les agitos des Paralympiques ne signifient que de belles histoires pour notre société, alors ces jeux, cette ferveur commune, n'auront été qu'une parenthèse enchantée dans la dureté des jours où rien n'est prévu ni pensé pour le handicap dans nos lieux de vie, dans nos lieux de fête, nos lieux d'études et même nos lieux de soins. Les femmes et les hommes qui portent un handicap, et les enfants bien sûr, comme ce nageur de 13 ans qui se hisse à la deuxième place auprès de champions qui ont deux fois son âge, ne sont pas des récits extraordinaires, mais des vies bien réelles, qui nous invitent à bouger dans nos têtes, à défaut de pouvoir aussi bien bouger dans nos corps qu'eux. Et la visibilité dont bénéficient les athlètes des Jeux paralympiques nous invite, avec beaucoup de joie mais aussi beaucoup d'insistance, à penser l'existence autrement, la leur mais aussi la nôtre. Car le handicap arrive parfois très brutalement dans la vie des valides, et je puis en témoigner moi-même. Et c'est étonnant que ce ne soit toujours pas l'affaire de toutes et tous. D'ailleurs, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir expérimenté dans nos vies la survenue du handicap et à avoir mesuré combien il nécessite le dépassement de soi pour revenir à une socialisation à peu près normale. Quand on ne bouge plus physiquement, il faut que l'esprit bouge énormément pour continuer à vivre. Vivre selon cette sagesse audacieuse dont nous parle Coëlette, c'est faire évoluer notre société pour que les chances de construire notre vie soient redonnées à chacun avec plus d'équité. Une société dans laquelle le premier mot devant l'obstacle ne doit plus être « c'est impossible », mais plutôt « voyons ce que nous pourrions faire pour rendre possible la chose ». Alors évidemment, la phrase est plus longue, elle nécessite plus de temps, plus de réflexion, plus de ténacité, mais elle ouvre vers un avenir différent et plus inclusif. Et c'est valable pour tous les handicaps de vie, qu'ils soient visibles, invisibles, qu'ils soient sociaux. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, le soir ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un comme l'autre sont également bons. Coëlette nous dit que personne ne sait vraiment pourquoi il est arrivé sur terre et dans quel but. Mais cela ne doit jamais empêcher quiconque d'entreprendre son propre voyage, en essayant toujours de faire ce qui nous tient à cœur, même si, au départ, cela paraissait impossible. née au mauvais moment, au mauvais endroit, née pour réaliser le rêve des autres plus que le sien, née avec le mauvais genre, le mauvais nom, née par erreur, née contre toute attente. Nous ne savons pas l'œuvre de Dieu pour chacun et chacune de nous. Alors dès le matin, commençons une nouvelle journée en travaillant à créer notre propre avenir, sans jamais renoncer à faire bouger les esprits. Rien n'est écrit, sinon une promesse. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis ma joie. Que cette joie nous donne l'audace de vivre. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 308 pour que nous confions ensemble à Dieu notre route. Nous allons partager maintenant quelques annonces avec notre présidente du Conseil presbytéral, Aurore, qui partage les annonces avec nous.
Merci Béatrice. Bonjour à tous. Encore bravo pour ceux qui ont réussi à venir en bravant le passage du marathon.
Et oui.
Mais quelle joie en même temps ces jeux. Beaucoup ont remarqué, pour ceux qui ont fait ces Jeux olympiques, enfin qui y ont participé, l'importance des bénévoles. Notre Premier ministre, nouveau Premier ministre, le citait sur le perron avec l'ancien. Plus de 40 000 bénévoles se sont mobilisés. Et pour ceux qui vraiment ont vécu ces Jeux olympiques en tant que spectateurs, ont tous remarqué que ce bénévolat a fait que ces Jeux olympiques ont été absolument magiques. En plus des performances des athlètes. Alors si je vous dis ça au nom du Conseil presbytéral, c'est aussi parce que le Conseil presbytéral est composé entièrement de bénévoles. Et que la joie et l'audace de vivre que nous avons et de servir, elle prend tout son sens aussi dans les églises. C'est aussi l'objet de cette feuille rose, la dernière, à qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs d'habiter unis ensemble. Mais pour que ça marche, pour qu'on ait tous la pêche, on a besoin de vous. On a besoin de vos sourires, vous avez besoin de nos sourires. Donc, puisque nous sommes en début d'année, et que nous avons cette audace de vivre, cette audace de servir, venez nous aider. Venez nous aider. Comme dit l'Ecclésiaste, tu l'as cité. Qui regarde le vent, celui qui regarde le vent...
Ne sème pas.
Ne sème pas. Sème, S-E-M-E.
Oui,
il sème peut-être
quand même
pas d'ailleurs. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Et ça fait 4 ans que je sers certains dans le conseil. Je pense à mon vice-président Jean-Luc, beaucoup plus que ça. On entend très souvent, oui, alors quand je reviens de vacances, on va t'aider. Ou quand j'aurai fini ceci, ou quand je serai revenu de je ne sais où. Non, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc vraiment, vous avez un tout petit peu de temps, vous avez des talents, tous individuellement. Venez nous le dire après le culte, nous partagerons un verre de l'amitié pour qu'on vous enrôle dans un rôle qui est celui de vivre ensemble. Donc je vous en prie, faites-le, parce que vous avez toutes nos activités ici, le vendredi aussi, donc j'arrive aux annonces. Le grec biblique reprend, la peinture ne reprend pas. J'ai fait une erreur dans la newsletter hebdomadaire. La peinture ne reprendra que le début octobre. Le groupe des jeunes reprend ce mercredi sur un thème merveilleux qui est le thème du rêve. L'école biblique reprend dimanche prochain. Toutes ces activités n'existent que par le bénévolat. Même notre pasteur, vous savez, quasiment bénévole, si vous lisez la feuille rose de la fois d'avant.
La moitié du temps seulement.
Donc je vous en prie, venez nous aider, travailler avec nous, participer pour que cette église continue à aller bien, voire même très bien. Voilà pour ces quelques annonces très rapides.
Et puis un ministère pastoral toute seule, c'est pas rigolo du tout. Et là, vous savez que ma collègue a pris sa retraite et donc je vais me trouver un petit peu sans vis-à-vis théologique. Et dans tous ces bénévolats, on est tout le temps en train de se former, de réfléchir, de chercher à dire autrement les choses en théologie. Et du coup, c'est une émulation constante. Alors, c'est aussi des lieux où on évolue, on grandit et on peut grandir qu'ensemble. Donc, c'est pour ça que moi, je vous attends pour venir... donner un coup de main, mais surtout participer à tout ce qu'on fait ensemble. Et puis, je suis sûre que quand on porte chacun une petite partie des charges habituelles de toutes ces activités, qui sont des charges d'intendance parfois, mais aussi parfois aussi de préparation de toutes ces formations, les choses prennent une autre tournure, parce qu'on n'est plus tout seul, et du coup, dans le dialogue, on découvre beaucoup de choses. Voilà, merci.
Oui. Comme le dit souvent notre trésorier, en équipe, c'est quand même plus sympa. N'est-ce pas? Donc, rejoignez-nous après le culte pour en discuter, pour voir ce que vous pouvez faire avec nous. Sachez qu'on ne vous retiendra pas trop longtemps parce qu'après, le conseil presbytéral se réunit toute l'après-midi. pour justement travailler sur l'avenir. Alors après, cette audace de vivre, cette audace de s'engager, on regarde plus le vent, on regarde plus les nuages, et on a l'audace. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Agnès, mais vous m'avez répété pendant 4 ans, arrête de dire lancer l'offrande. Ben, moi, je lance, je jette.
Alors maintenant, on peut avec le pain.
Ah, t'es d'accord?
Mais oui, oui, oui.
Donc non, on peut lancer l'offrande
alors,
maintenant.
Oui, mais c'est dans l'autre sens. Alors, messieurs, dames...
Lancez-vous.
Voilà, lancez votre offrande à la surface de l'eau et avec le temps, dans l'abondance des jours, vous la trouverez. On va refaire du Coëlette.
Merci infiniment à tous et bon dimanche. Et si je peux avoir des conseillers pour venir récupérer l'offrande que vous aurez jetée, ça serait sympathique. Merci beaucoup.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour notre monde. Et particulièrement ce matin, nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui demandent qu'on les regarde sans projeter nos propres imaginations sur eux, sans les enfermer dans des impossibilités que nous imaginons et qui nous empêchent d'imaginer autre chose avec eux. Nous te prions pour nos incapacités à imaginer un avenir ensemble. Nous te prions, Éternel, pour toutes nos négligences, nos moments où nous ne pensons pas dans d'autres termes que les nôtres. Aide-nous à faire ce pas de côté qui permet de nous décentrer et regarder avec le point de vue de l'autre au moins une fois. Un véritable point de vue autre, afin que nous puissions comprendre quelles sont les aspirations, les rêves, les désirs, les volontés de notre prochain, sans l'enfermer dans nos idées toutes faites, dans nos paniques, dans nos constats d'impuissance. Éternel, nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui ont à transformer leur vie après un accident, parfois une blessure, parfois une maladie, qui semble oblitérer leur avenir. Éternel, permet que nous inventions cet avenir ensemble et que nous puissions les uns et les autres nous souvenir de notre fragilité pour que nous puissions accéder à une autre société plus accueillante, moins brutale et qui sache ralentir quand il faut pour se mettre à la cadence de ceux qui marchent peut-être moins vite. Éternel, nous te remettons toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à imaginer cet avenir parce que la charge est trop lourde. Permets que nos lieux de culte, nos lieux de prière, nos lieux de méditation soient des lieux où il soit possible de déposer cette charge et ensemble la porter. Éternel, nous te remettons notre monde et nous te remettons toutes celles et ceux qui, à travers les différents pays en guerre en ce moment même, sont contraints à l'exil, avec parfois dans leur corps les traces de la brutalité humaine. Permets que nous soyons amicaux avec ces hommes, ces femmes et ces enfants qui risquent leur vie pour pouvoir échapper parfois à la mort, et pour qui il semble parfois qu'il n'y ait aucune place sur la terre. Apprends-nous, Seigneur, à être dans cet accueil, et rappelle-nous que celui que tu as inspiré au voyage, le premier des croyants, Abraham, était un père errant, exilé sur la terre. Ensemble, nous voulons te prier, comme un père qui écoute ses enfants, tu écouteras notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de nous séparer maintenant et nous terminons cette halte ensemble, même si nous allons nous retrouver à la suite pour un moment convivial. Mais vous allez retourner dans vos lieux de vie habituels, vos lieux professionnels, votre famille, les associations où vous agissez. Alors partez d'ici avec chevillé au corps cette audace qui vous fera prendre tous les risques nécessaires sur l'avenir, afin qu'un nouveau monde existe avec toutes les chevilles ouvrières que nous sommes toutes et tous. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui rend grâce pour la création, qui rend grâce pour les hommes et les femmes qu'il voit vivre, vous fait grâce aujourd'hui et vous bénit. Amen.